Puis aussi, c'est bon de dire que ceux d'entre vous qui ont des commentaires ou quoi que ce soit, quelque chose à apporter, vous êtes vraiment libre de le faire. Puis même, ça peut nous aider pour l'étude. C'est seulement que des pensées un peu qu'on veut amener pour nous aider aussi à méditer sur la personne du Seigneur. Et quand on parle du Seigneur Jésus, c'est sûr que on veut aller avec révérence. Parce que même les Juifs n'osaient même pas écrire le tétagramme parce que c'était trop saint pour eux autres. Je ne sais pas si même ils nous verraient prononcer le nom de Dieu comme ça puis avoir les Écritures, ils seraient peut-être insultés de voir ça. Mais nous, on a une autre révélation que les Juifs, même on peut s'adresser à Dieu comme leur Père. Le but ce soir, c'est de regarder qui est-il et que veut-il. Qui est-il parce que dans la barque, vous vous rappelez quand les disciples, durant la tempête, le Seigneur a calmé la tempête, ils ont dit, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Puis aussi, que veut-il? Bien, on voit que le Seigneur, il avait un désir de nous amener à lui, mais de, qu'on puisse le connaître, d'avoir une communion avec lui. Je vais vous faire une petite révélation de mon enfance. Je me rappelle pas beaucoup de mon enfance, mais j'ai comme des flashs, des fois. Des fois, Lynn, elle me demande, elle dit, « Oh, elle dit, toi, quand tu avais un tel âge, 4, 5, 6 ans, qu'est-ce que tu faisais? » Je lui dis, « Demande-moi pas ça, parce que moi, je me rappelle. » J'ai commencé à vivre seulement à 13 ans, à peu près. En voulant dire que j'ai de la misère à me rappeler de, des choses que quand j'étais plus jeune. Mais je me rappelle, entre autres, mon père n'était pas décédé dans ce temps-là. Il est décédé, j'avais 8 ans. Ça veut dire environ à 6-7 ans. Je me rappelle que j'étais un petit garçon très collant, très attaché à ma mère. J'avais bien ça être près de ma mère. Et même, je me rappelle que mon père, qui était un bûcheron, qui partait toute la semaine, je ne couchais pas dans mon lit. Je couchais avec ma mère. C'est drôle. Hein? Puis même, de temps en temps, la fin de semaine, j'osais aller me présenter avec mon père et ma mère. Mais là, ma mère, elle ne me tolérait pas. Elle était là. Envoyée dans ton lit, toi. Puis là, mon père était là. Bah, pauvre. Là, il se tassait ses jambes et il faisait une petite place. Il réussit à passer pareil. Mais ça me fait rire parce que, vous savez, quand j'ai connu le Seigneur Jésus, c'est ça qui m'a frappé aussi. De savoir que le Dieu qui avait créé la terre, on pouvait être intime avec lui. D'une intimité qu'on n'aurait jamais pu s'imaginer dans la religion. Pour moi, Dieu, c'était un Dieu très loin. Vous connaissez ça aussi, vous venez de la religion catholique. Puis c'était difficile de s'approcher de lui. Peut-être que j'étais plus affectueux qu'un autre, puis de savoir que Dieu était un Dieu qui voulait une intimité avec moi, c'était comme une découverte merveilleuse. C'était merveilleux de savoir que Dieu voulait s'approcher de nous autres. Puis ce soir, si on veut s'approcher plus près du Seigneur Jésus, quel évangile on voudrait regarder? Comment? L'évangile de Jean, hein? Parce que l'évangile de Jean nous présente le Seigneur Jésus d'une manière intime. Puis c'est même dans le chapitre 13, verset 25, on voit l'apôtre Jean qui était même couché un peu sur la poitrine du Seigneur. C'est compréhensible parce que dans ce temps-là, même dans les repas, il était comme allongé. Mais ça nous parle vraiment de l'intimité. Puis aussi, l'évangile de Jean, c'est un évangile de rencontre personnelle. Puis là, vous n'apprenez rien de nouveau, hein. Ce soir, je m'attends pas de vous apprendre des choses nouvelles. Mais seulement vous remémorer la mémoire pour que ça puisse nous réchauffer puis nous attirer vers le Seigneur. Des rencontres personnelles. Mais toutes ces rencontres-là, personnelles, les personnes ont été affectées. Ça a eu un effet sur eux autres. Parce que rencontrer le Seigneur Jésus, il y a toujours un effet. On ne peut pas rester indifférent. Vous savez que dans, au tout début de l'Évangile de Jean, chapitre 2, si vous tournez dans le chapitre 2 de l'Évangile de Jean, les premiers versets, c'est un peu difficile à savoir pourquoi l'Évangile de Jean commence tout de suite, presque avec un miracle, pas tout de suite, mais avec un miracle, et on voit les noces de Cana. Et on voit le verset 3 de chapitre 2, « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Tout de suite, on voit 6 vases de pierre. Et même avant le chapitre 2, le Seigneur Jésus a déjà rencontré 6 personnes. C'est frappant, hein? Puis, il y a un frère qui mentionnait l'autre jour dans l'étude de Gédéon qu'il faisait le rapprochement que nous étions des vases de terre. L'apôtre Paul, il dit que le Seigneur a mis ses trésors dans des vases de terre. Mais le Seigneur Jésus a pris 6 vases de pierre, mais ça peut être de la terre cuite, il les a remplis d'eau, puis il les a changés, il a changé l'eau en vin. C'est pas ça que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Prendre ces vases de terre et les faire pour la gloire de Dieu. Puis on sait que dans l'Évangile de Jean, l'eau a une grande, grande importance. Souvent, on voit l'eau. Même c'est là qu'il mentionnait qu'il y avait beaucoup d'eau, ce que Jean le Baptiste baptisait. C'est pas dit dans les autres évangiles. On parle constamment de l'eau. Mais avant ces 6 vases-là, le Seigneur a rencontré 6 personnes dans le premier chapitre. La première personne laquelle le Seigneur a rencontré? Jean-Baptiste. C'est lui que le Seigneur a vu en premier. Mais je dis pas que c'est... Mais je parle dans l'Évangile de Jean. On voit que le Seigneur rencontre Jean-Baptiste le premier. Et ensuite, Jean-Baptiste, le verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. 2 disciples. Et il leur dit, voilà l'agneau de Dieu. Alors, Jean-Baptiste guide ces 2 personnes-là vers le Seigneur Jésus et il passe la journée, du moins le reste de la journée avec le Seigneur. Et on nous dit, au verset 40, qu'il y avait un de ces deux-là, au moins, qui était André. Lui, c'était le frère de Simon-Pierre. Et il emmène le Seigneur Jésus à Simon-Pierre. Et ensuite, le lendemain, on voit que Philippe rentre. Le lendemain, Jésus, verset 43, voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi, Philippe. » Ça, c'est la 5e personne. Et la 6e, c'est laquelle? Nathanaël. 6 vases de terre. Mais on sait aussi que ces personnes-là sont devenues des intimes du Seigneur. À part Jean-Baptiste, mais les autres sont devenus des apôtres. Parce que Nathanaël, on peut voir aussi que les commentateurs disent que c'est le même, c'est Barthélemy. Il y a une transformation dans leur vie. On ne peut pas s'approcher du Seigneur, rencontrer le Seigneur Jésus sans avoir une affaire. Mais aussi, il y a 6 autres rencontres dans l'Évangile de Jean après les noces de Cana qui va avoir aussi une différence dans leur vie. Le premier, vous savez, c'est lequel? Nicodème. Et Nicodème, le Seigneur, c'est à lui qui lui parle de naître d'eau et d'esprit. J'ai une question pour vous. Jésus lui dit, verset 5, chapitre 3, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur a dit à Nicodème? un d'entre vous. La question, c'est qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à Nicodème, naître d'eau et d'esprit? OK. La parole de Dieu? La parole de Dieu, ce serait l'eau? Non, possibilité. Je ne fais pas la réponse, là, mais je veux savoir ce que vous en pensez.
C'est la question de baptême.
Oui.
C'est le baptême d'esprit aussi, là.
OK. C'est oui, c'est déjà une explication que j'ai déjà entendue. Oui. Ézéchiel 36, verset 25. Ouais. Mon ami est arrivé en arrière, il m'a montré le point comme ça. Là.
Ouais.
Ça va bien. Hein? Oui. Oui, j'avais ça à l'esprit, mais j'avais aussi d'autres choses à l'esprit. Mais parce que c'est sûr qu'en parlant de Nicodème, il est, comme M. Anderson a dit, il était sûrement au courant qu'est-ce que le Seigneur Jésus parlait, que le Seigneur allait changer leur cœur, même des cœurs de pierre, il allait mettre des cœurs de chair. Mais aussi, si on se réfère, ben, c'est sûr, avec le contexte et avec l'Évangile de Jean, qui est souvent avec l'eau, et que le Seigneur Jésus a même parlé avec la Samaritaine. Et même, ce qui m'a frappé aussi, parce qu'il dit tout de suite, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Puis souvent, le Seigneur, il va expliquer souvent un verset tout de suite quand il va le dire. En tout cas, moi, c'est une pensée que j'ai. Ça ne veut pas dire que c'est bonne, hein? c'est la bonne. Mais moi, je crois que le Seigneur Jésus, il parlait qu'un homme, il doit naître, premièrement. S'il ne peut pas naître, il ne peut pas même pas avoir la vie éternelle. Puis ensuite de ça, il doit recevoir l'Esprit. Il doit naître d'eau et l'Esprit. Il doit naître, premièrement, et ensuite, de l'Esprit de Dieu, il doit recevoir l'Esprit de Dieu pour avoir la vie éternelle. Je ne sais pas si ça vous mêle plus que d'autres choses. Là. Mais ici, on peut faire référence quand même avec les vases de terre. Et encore là, je ne veux pas extrapoler, là, parce que c'est une des suggestions que vous faites. Mais je trouvais ça quand même intéressant que ces vases de terre qui étaient remplis d'eau, le Seigneur l'a changé en vin. Puis on sait que le vin représente l'Esprit Saint même dans la joie dans les Écritures. Mais ça, on ne va pas plus loin que ça. C'est une pensée que j'ai comme ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui avait une autre pensée. Il y avait aussi une autre rencontre que le Seigneur va faire dans l'Évangile de Jean, c'est la Samaritaine. Puis la Samaritaine, le Seigneur lui parle de son besoin aussi. Et encore là, il y a l'eau qui est présente. Mais on sait très bien que cette femme allait pour puiser de l'eau, mais elle a trouvé une eau qu'elle ne pensait pas trouver. Le Seigneur lui parle qu'il va lui donner une eau qui va devenir en elle une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Puis aussi, il y a une autre rencontre qui est intéressante, c'est le paralytique à la piscine. Il y a question d'eau encore, c'est sûr, mais lui, il attendait le mouvement de l'eau pour être guéri. Mais il s'est aperçu que le Seigneur, c'est lui qui va le guérir. Sans le Seigneur Jésus, il ne pouvait rien faire. L'autre rencontre, c'est la femme adultère, qui a une rencontre personnelle avec le Seigneur, puis aussi le dernier La dernière personne que je pense, c'est à l'aveugle de nez. Bon, ça, c'est en passant un peu. Mais les quatre évangiles, j'ai trouvé ça intéressant parce que notre frère nous a parlé, les quatre évangiles, il les voit comme un train. Il dit, comme une locomotive avec deux wagons, puis ensuite le train de service qui est en arrière. Il appelle ça le cabou, mais nous autres, je ne sais pas si c'est le cabou, en tout cas, c'est le train de service en arrière. Et quand il pense à l'évangile de Matthieu, il la voit un peu comme le train de service, parce qu'on voit que Matthieu regarde souvent en arrière, afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit. Et il réfère toujours aux prophéties. Le train de service, Matthieu regarde par en arrière. Mais lui, l'apôtre Jean regarde toujours vers le futur, vers l'avant. Il est comme dans l'ingénieur, dans la locomotive, qui voit en avant, qui voit qu'est-ce qui arrive. Et souvent, dans l'évangile de Jean, on voit des choses qui vont venir dans le futur. Le Seigneur dit à la Samaritaine, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où ce que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. » Quelque chose qui est nouveau. Même dans Jean 5, 28, « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres en sortiront. » Spécial, hein? Jean 7, 39, il parle de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Le Saint-Esprit qui devait venir. Il y a plusieurs passages comme ça. Il parle aussi des brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais qui vont venir. Jean 21, 19, le Seigneur annonce la mort de Pierre. Quelque chose de futur. Il parlait aussi, on sait que Marc, lui, a écrit plus pour les Romains parce qu'il nous présente Jésus comme le parfait serviteur. 10, 45, hein? Le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Et Luc écrivait aux Grecs parce qu'il présente Jésus comme le Fils de l'homme, l'homme parfait. Et eux autres avaient toute cette soif de la sagesse humaine, de l'homme parfait, et le Seigneur Jésus, c'est lui l'homme parfait. Luc le représente comme l'homme parfait. L'apôtre Jean est écrit dans un moment où ce que la persécution commençait à faire rage vers la fin du premier siècle. Et les chrétiens commençaient à être persécutés pour leur foi. Et Jean écrit, c'est lui qui rapporte le plus de paroles du Seigneur Jésus lui-même. Possiblement parce qu'il sentait le besoin de réconforter les chrétiens. Alors on voit souvent les paroles du Seigneur en grand nombre dans l'évangile de Jean. Souvent, souvent. Et quel était le but de l'évangile de Jean? Pourquoi Jean a écrit son évangile? Jean 20, 31, on peut le lire. Hein? Dans Jean 20, 31... Je vais lire au micro. Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Alors on voit le but de l'évangile de Jean. Comment un chrétien pouvait-il savoir qu'il avait la vie éternelle? En croyant que Jésus est le Fils de Dieu. Puis, est-ce que vous pouvez me décrire la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? De connaître le Seigneur. C'est quel verset, ça? Dans le verset, quel verset qu'il a dit? Verset 17, Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est que tu te connaisses, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et ça, c'était le but que Jean avait écrit son épître, pour que les chrétiens sachent qu'ils ont la vie éternelle, et que cette vie est dans le Fils. Et ce qui est spécial, c'est que les chrétiens, ils pouvaient savoir qu'il y avait déjà cette vie éternelle, parce qu'ils connaissaient déjà le Seigneur. Et c'est la même chose pour nous autres. Qu'est-ce qui nous dit que nous avons la vie éternelle aujourd'hui? Parce qu'on connaît le Seigneur. Et on le connaît intimement. Parce que même avant de me convertir, j'ai toujours pensé que la vie éternelle, c'était comme un état ou quelque chose qui finissait jamais, c'est vrai aussi. Mais je voyais ça plus matériel ou quelque chose de physique que quelque chose de spirituel. Puis ça m'avait jamais venu à l'idée que la vie éternelle, ça pouvait être connaître une personne. Puis c'est tout qu'un privilège de connaître cette personne-là. Le Seigneur Jésus. Comme on a dit, de connaître cette personne-là, pour nous, aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même assez facile. Ben, facile, il faut s'entendre. Mais je veux dire qu'on a les Écritures. Parce qu'on a vu cette semaine qu'on n'a pas la même vision que même les apôtres avaient dans ce temps-là. On a une plus grande perception des choses parce que le Seigneur nous a donné sa parole. Mais eux autres, ils avaient quand même une perception, mais il y avait aussi des choses qu'ils ignoraient. Parce qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament encore. Puis c'est vraiment intéressant de voir même la manière qu'a disposé le pamphlet avec les prophéties. C'est intéressant, hein? On regardait justement ça tout à l'heure. Ceux de l'Ancien Testament, ils regardaient ils regardaient aux prophéties et ils voyaient que le Messie devait venir régner en gloire. Et c'est ça qu'ils voyaient très clair. Puis on va encore donner l'exemple. Et en regardant, c'est comme si on regarde vers une montagne, les rocheuses, et on voit tout le rocher qui est là, puis on peut se dire, hey, c'est une belle roche, je vais seulement qu'à monter sur ce cran-là, puis je vais arriver en haut. Mais quand on s'approche de la roche, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'on monte une petite montagne, puis on s'aperçoit qu'il y a une vallée. Puis il faut passer dans cette vallée-là pour atteindre le vrai sommet qu'on veut atteindre. Puis ceux de l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'ils ont regardé les prophéties et les choses à venir. Mais nous, on est plus proche. On s'aperçoit qu'il y avait une vallée même à traverser. Alors la perception est différente. Et j'essayais de m'imaginer que les disciples, les apôtres, les juifs dans ce temps-là, quand ils étaient au milieu, ils étaient avec le Seigneur Jésus, c'était difficile pour eux autres de percevoir qui était vraiment le Seigneur Jésus. Et comme on l'a dit ce matin, ils attendaient même un prophète qui était pour eux autres un messie. Ils attendaient, on ne peut pas dire deux messies, mais presque. Un messie qui allait souffrir, puis un messie qui était dans la gloire. Ils le voyaient très bien dans les prophéties, mais pour eux autres, c'était quand même un mystère. Comment concilier un messie qui souffre avec quelqu'un qui est dans la gloire? Et ça, c'était très difficile pour eux autres. Puis on voit que même au début de l'évangile de Jean, on voit souvent des déclarations, « Voilà l'agneau de Dieu. Voilà, voici l'agneau de Dieu. » Nathanaël, même, il était hésitant à savoir, « Mais il peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? » Des doutes au sujet de Jésus-Christ. La Samaritaine, même, elle attendait le prophète qui doit venir. Les Samaritains aussi, eux autres, ils ont été convaincus, mais seulement qu'après avoir parlé avec Jésus-Christ. Même dans chapitre 6, 66, il y a des disciples qui se sont retirés du Seigneur, puis ils n'ont plus été avec lui. On voit que l'identité du Seigneur était devenue quelque chose comme une incertitude. Ils ne savaient pas qui il était. Pourtant, il leur annonçait, il faisait des miracles. Il croyait en lui pour un temps, il avait des doutes, il était tiraillé. Qui était-il? Et aussi même au chapitre 7, dans le verset 40 jusqu'à 52, on pourrait dire que la crise de l'identité du Seigneur était à son summum. Les gens étaient dans l'incertitude. Qui est-il? C'est-tu le vrai? C'est-tu un faux? Il semble que même à travers les pharisiens, les huissiers, tout le monde était mélangé. Puis je me posais la question, mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il voulait vraiment mélanger les gens sur son identité? Ou est-ce qu'il voulait vraiment révéler sa personne? Puis ici, on lit quelques versets dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem? Où était David que le Christ doit venir? » Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Et 45, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Et là, les huissiers disent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Puis même Nicodème, il demande qu'on puisse quand même l'entendre avant de le condamner. La crise de l'identité du Seigneur. Qui est-il? Et si vous tournez 7 chapitres plus loin, il y a la déclaration formelle dans Jean 14, verset 8. Au verset 9, c'est Philippe qui demande, « Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous-le, ça va suffire. » Puis le Seigneur de dire, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Ça ressemble aux paroles du Père aussi, hein? On dirait que c'est le Père qui parle à Philippe. « Tu ne m'as pas connu, Philippe. » Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et on voit que cette révélation, 7 chapitres plus loin, le Seigneur formellement déclare être Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est mystérieux, hein? Là, on ne peut pas tout comprendre. Même moi, je trouve que c'est un peu profond, toutes ces choses-là. Puis aussi, mais malgré tout, dans ce chapitre 14, on sait que c'est révélé seulement qu'à ses intimes. Parce que ça, il ne l'a pas dit. Ou il l'a dit plus en image, mais textuellement, il l'a dit seulement à ses intimes ici. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qui est-il? Dieu manifesté en chair. Et c'est ça que l'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée 3,16. Que Dieu a été manifesté en chair, c'était le mystère de la piété. Il n'y avait pas plus grande chose qui a pu exister sur la terre que Jésus-Christ qui s'est manifesté en chair. Et quand l'apôtre Jean a dit qu'il avait vu sa gloire, comme la gloire du unique venait du Père, qu'est-ce que Jean a vu? Qu'est-ce qu'il a pu voir, Jean, vous pensez? Jean a vu sa gloire, 1,14. Qu'est-ce que l'apôtre Jean a vu dans le Seigneur Jésus, qui était si glorieux? Est-ce que c'était son corps physique?
Une qualité morale?
Oui, moi je pense que oui, sûrement. Il a vu le Père, tu dis, Léonard? Le chapitre 14? Ah, OK, le premier chapitre? Oui, oui, encore Jean, oui. Ah, là, exactement. Ah, c'est intéressant. Non, c'est bon. Parce que même moi, je me posais la question, qu'est-ce que Jean a réellement vu de cette gloire? Une gloire qui était sûrement pas apparente, comme dans Ésaïe, qu'on a vu, Ésaïe 53. Il n'y avait aucun éclat pour nous plaire. Aucune apparence physique. Mais il y avait certainement quelque chose que Jean a vu et qu'il l'a frappé, qu'il n'avait pas vu sur aucune autre personne. Et sûrement, Jean a vu le cœur du Seigneur. Hein? La manière que le Seigneur aimait les personnes et qu'il était proche des autres. Mais il y a bien des choses que le Jean a vues, mais c'est un peu comme voilé. Il nous le dit un peu en parabole. Hein? Il dit, la gloire. Oui. Sentez-vous libre, hein? Moi, je vous dirige. On fait l'étude ensemble, mais... 1 Jean 1, verset 2. Oui. Ah, tu veux que je lise? Je ne sais pas si tu la lis. OK. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Le premier verset. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alors Jean, il parle ici qu'il a vu la vie éternelle. Oui, c'est... Parce qu'on sait que dans d'autres passages même, pas dans d'autres passages, mais on sait que le Seigneur Jésus a voilé sa gloire, en quelque sorte. Mais on parle de la gloire resplendissante, ou même de... Mais malgré tout, il y avait une gloire quand même. Et c'est ça que Jean a vu, cette gloire qui a été manifestée sur terre. Mais comme vous dites, puis comme on l'a mentionné, sûrement l'aspect moral du Seigneur et la manière de marcher sur la terre avec les gens. Puis aussi, il ne faut pas oublier que Jean était un des intimes, comme tous les apôtres, mais il semble que Jean était un des plus intimes du Seigneur. Et il a vu quelque chose de spécial, de particulier. C'est sûr, c'est dur à comprendre toutes ces choses-là. Hein. Même le fait que Dieu est esprit, on ne peut pas voir Dieu, comme le Seigneur a dit à la Samaritaine. Et comment faire d'entrer dans cette intimité ou cette gloire de Dieu? Mais Dieu a manifesté sa gloire dans la personne du Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur a dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père », il pouvait dire, « Tu l'as vu le Père, Philippe. Tu n'as aucun doute, tu l'as vu. Si tu me vois. Qu'est-ce que tu veux de plus? » C'est quasiment ça que le Seigneur a voulu dire à Philippe. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu m'as vu, puis tu me demandes d'autres choses. Et possiblement que, comme n'importe qui d'entre nous, peut-être que nos attentes de la gloire de Dieu et de toute la magnificence est bien loin de ce qu'on peut imaginer. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on imagine tout ça physique et tangible. Tandis que dans le ciel, ça peut être complètement différent de ce qu'on peut imaginer. Ça peut être beaucoup plus, peut-être, relation et avec une intimité qu'on ne peut pas s'imaginer. Oui, il y en a? Jean 17, verset 22. Okay. Je vais lire pour le micro. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant que la fondation du monde. C'est intéressant. Oui, Denis, il y avait Lucie aussi après, s'il y avait quelque chose. Oui, Denis. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Même peut-être sans parole, le Seigneur aurait manifesté une gloire incroyable. Oui, Lucien, il y avait quelque chose. Hein? Jean a été emporté probablement par la profondeur, possiblement. Oui, c'était une gloire, c'est vrai. Comme le Seigneur lui disait des océans de vérité en deux mots, deux phrases. C'est ça qui, probablement, c'était une gloire que Jean a vue aussi. La manière que le Seigneur s'est exprimé avec les gens. Et même, on n'a qu'à penser avec le tribut à César. Comment que le Seigneur les a fermé la bouche en deux, trois petits mots. Seigneur. Oui, aussi, c'est vrai. Elle est tangible, cette gloire-là, quand même. On ne peut pas dire qu'elle est seulement qu'elle est spirituelle. Elle est vraiment tangible, c'est vrai. Lui, il a vu quelque chose. Hein? Il a vu cette gloire-là, lui. C'est vrai. Pas oublier ça. Oui, Michel, M. Bouillon, après. Ouais, c'est pas. Hein. On peut pas mettre ça sur le papier. On peut se mettre à parler. Oui, M. Boulian, une dernière intervention. Jean était oublié, il était ébloui par bien des choses, c'est ça. Puis, comme on avait mentionné, on veut regarder dans la suite les « Je suis » dans l'Évangile de Jean. Je veux dire, le Seigneur a mentionné plus qu'une fois, plus que même sept fois, « Je suis ». Avant qu'Abraham fût, « Je suis ». Mais il a fait des déclarations comme « Je suis le pain, je suis la lumière ». Puis je vais penser que ce soir, c'est bon qu'on regarde sept « Je suis » que le Seigneur a mentionné et peut-être faire des connexions avec les sept miracles qu'il y a dans l'Évangile de Jean. Le terme « je suis », on sait que c'est le Seigneur qui s'est présenté comme ça. « Je suis celui qui suis ». Et nous, ça nous dépasse aussi parce que il n'y a pas de temps, il n'y a pas de présent. Il y a seulement du présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et le Seigneur, on ne peut pas le mettre dans le temps. Mais le Seigneur, « je suis ce que tu as besoin hein? ». Si on peut l'exprimer ici. Et le Seigneur n'est pas quelqu'un de matériel. Il est vraiment notre besoin parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et on est créé à l'image dans le sens que le Seigneur nous a fait corps, âme et esprit. Mais l'esprit que nous avons, c'est ça malgré tout qui fait qu'on ressemble plus à Dieu. L'esprit qu'on peut décider, on peut faire des choix, on peut communiquer avec notre esprit. Parce que tout notre corps, notre physique, notre cerveau, c'est bien beau ça, mais enlever l'esprit, puis c'est comme une terre, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors on voit combien que l'esprit est important. Et quand Dieu nous a créé son image, nous a créé avec l'esprit. Puis j'avais lu ça par exemple, c'est quelque chose de pas facile, là. J'avais lu un article avec M. Dave Hunt dans The Berlin and Cow. Puis il parlait justement tout le code génétique, comment l'homme était conçu. C'est vraiment intéressant. Janine m'en a traduit un petit bout, mais même en français, je l'ai difficulté à le comprendre. Là, je vous avoue là, que c'est pas facile à comprendre, parce que un exposé c'était pas facile. Parce qu'il expliquait que le code génétique, ça a une ordonnée bien, bien spécifique. C'est pas tout mélangé. Puis c'est comme un langage. Pour créer un être humain, si vous prenez le code génétique dans l'ADN, c'est très bien déterminé. C'est pas D, ça a un code suivi, c'est comme un langage. Avec des millions il y a des choses très compliquées. Puis même, ça démontrait même que l'évolution, c'est impossible. Comment l'évolution a pu arriver à mettre tout ce code-là en ordre pour qu'on puisse avoir un être humain merveilleux? Il disait que c'était impossible. Puis même, il parlait que même le fait qu'on peut parler l'homme, parce que nous, on a un langage, c'est ça, malgré tout, qui nous rend particuliers. Puis même l'homme, il est capable d'étudier et même de comprendre l'ADN. Ben, de comprendre, c'est difficile à s'imaginer, mais au moins, il sait qu'il y a un cas très spécifique. L'homme est capable de comprendre ça. C'est ça qui fait de nous qu'on est vraiment quelqu'un, un être qui est particulier. Même le fait de comprendre comment on est fait. Je vous dis, je trouvais ça intéressant. Puis aussi, il parlait du langage. Notre habilité de former des choses, de former des phrases, de parler. On peut les mettre sur papier, on peut les mettre sur ordinateur, sur un écran. Mais ce langage-là, c'est rien si nous, on n'est pas là en arrière. Ça prend l'esprit de l'homme pour pouvoir communiquer qu'est-ce qu'on veut dire. On voit qu'on est un être spécial et que Dieu est esprit, mais nous, en quelque sorte, on est esprit aussi, mais on a un corps quand même. Mais Dieu, il a ce désir d'avoir une communion avec nous autres. Mais Dieu, il n'a pas besoin de nous autres. Là. Mais je crois que Dieu, même dans sa création, et quand il a créé l'homme, premièrement, c'était un but de pouvoir avoir un contact avec sa créature. Il l'a eu, c'est sûr, mais on sait que ça a été perdu. Mais les sept « Je suis » dans l'Évangile de Jean nous parlent. Comment le Seigneur peut rétablir cette communion avec sa créature? Le premier, je vais vous nommer les sept « Je suis », puis après ça, je vais vous nommer les sept miracles. On va essayer de faire c'est pas nécessairement en ordre, là. Le premier « Je suis », c'est « Je suis le pain de vie ». Dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie ». Ensuite, dans le deuxième, c'est « Je suis la lumière du monde », dans Jean 8, verset 12. Et le Seigneur, je suis la porte. Jean 10, verset 7. Verset 9 aussi. Le quatrième, je suis le bon berger. On a chanté du berger ce soir. Jean 10, 11 et aussi verset 14. Je suis, le cinquième, je suis la résurrection. Le sixième, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout le monde peut dire ses préférences. Jean 14, 6. Et maintenant, le dernier qu'on va regarder, je suis le cep, le vrai cep. Jean 15, verset 1, verset 5. Il y a les sept miracles aussi. Il y a le premier miracle qu'on voit dans l'évangile de Jean, c'est les noces de Cana. Le vin changé, l'eau changée en vin. En chapitre 2. On va le dire tout à l'heure. Demandez-nous. OK, on va le dire tout de suite. OK. Avec quoi vous pensez-vous que ça va, le vin? Moi, je n'ai pas pensé ça, mais... Denis, j'ai compris, Denis, hein? Oui? Avec le cep? Oui. La vigne. Le vigneron. Ensuite, le deuxième miracle, c'est l'officier du roi qui a été guéri. Un païen que le Seigneur a guéri. Avec lequel je suis, on pourrait bien le mettre, lui. Hein? 11-25. Moi, j'ai pensé au bon berger. L'officier du roi. L'officier du roi, j'ai pensé au bon berger qui cherche les brebis, parce que même il mentionne, j'ai d'autres brebis de d'autres bergeries qui ne sont pas encore. Puis l'officier du roi, vous allez voir, c'était vraiment dans une contrée, lui, premièrement, c'était un païen. Ensuite, le troisième miracle, le paralytique, avec quel je suis, on pourrait le mettre. C'est pas évident. Je veux pas avoir forcé les choses, mais en tout cas, mais si vous trouvez ça forcé, vous me le dites. Ok, moi j'ai pas voulu. Non, mais parce que je l'ai mis avec un autre. Je comprends, il y en a un lien avec un autre. C'est tout bon ce que vous dites, là. Non, mais si vous lisez là, au début, je vais vous lire le début du chapitre 5. Après ça, il y a une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui avait cinq portiques. La porte des brebis. En tout cas, j'ai pensé quand même que c'était pas là pour rien, mais malgré tout, je veux dire, on ne veut pas exagérer. Mais c'est. En tout cas, cette piscine-là, si tu voulais aller là, il fallait que tu passes par la porte des brebis. C'est le chapitre 5, oui. Ça, c'est le paralytique. Ensuite, il y a la multiplication des pains. Ça, c'est avec le pain de vie. Il y a un autre miracle que le Seigneur a fait dans Jean. Il a marché sur l'eau. On veut l'associer avec un « je suis », mais lequel vous mettriez, vous autres? Le chemin? OK. Le chemin, la vérité et la vie. Sur l'eau, il n'y a pas de chemin, en tout cas.
Ben, après, tu vas
créer un chemin dans les mers pour nous. Oui, oui. Merci, Léonard. Je ne connaissais pas ce verset-là. Non, mais... Oui, oui. C'est vraiment, non, c'est quand même vrai. Même la mer Rouge, on sait qu'elle fait frayer un chemin. Mais on pourra regarder ensemble, voir les analogies. Et ensuite, il y a l'aveugle né, Léonard. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, à l'aveugle? Non, l'aveugle. L'aveugle. La lumière du monde? L'aveugle. Non, non, non. Non, l'aveugle né. La lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et avec Lazare, qu'est-ce que vous m'attendez? Oui. Malgré tout, on voit qu'on peut quand même associer avec les « je suis », mais en tout cas, on va regarder ensemble. On ne veut pas forcer la note, comme j'ai dit. C'est vrai que dans le premier « je suis », le pain de vie, dans le chapitre 5, on voit la multiplication des pains. Et la leçon à prendre, je crois que le Seigneur voulait montrer à ces gens-là que il y avait plus que la nourriture matérielle. Vous savez qu'après la multiplication des pains, ils ont couru après le Seigneur. Et le Seigneur les a réprimandés. Vous venez après moi, pas parce que vous avez vu des miracles. Il y en avait vu des miracles. Puis si c'était vraiment parce que s'il aurait venu vraiment au pied du Seigneur parce qu'il avait vu des miracles, c'est parce qu'il aurait reconnu qu'il était quelqu'un de particulier, un prophète. Non, il venait pas à cause de ça. Il venait parce qu'il avait été rassasié. Et le Seigneur les a réprimandés. Et on se rappelle aussi, parce qu'on sait que le passage dans Deutéronome 3, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, on pourra garder que, tournez avec moi dans Deutéronome 8, verset 3, ça fait référence au peuple d'Israël qui ont marché dans le désert. Vous savez, quand on fait une première expérience comme ça, c'est ma première expérience, on sait ce qu'on commence, mais on sait ce qu'on veut arrêter, mais entre les deux, on ne sait pas comment ça va prendre de temps. Alors, on n'est pas obligé de passer tout au travers de ce que j'ai. Parce que quand vous allez commencer à dormir, dépasser 4, on va arrêter. Alors, si vous voulez que j'arrête, vous avez seulement à vous donner un mot, puis commencer à dormir, je vais arrêter. Parce qu'on n'est pas obligé de tout voir. Mais dans le chapitre 8, verset 3, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est vraiment quelque chose, hein? Et le Seigneur voulait apprendre aux Israélites qu'ils n'étaient pas seulement un mouton de chair, eux autres, qu'ils avaient besoin de d'autres choses. Et le Seigneur Jésus, qui vient, qui marche au milieu de son peuple, qui fait des miracles, et il court encore après des choses de néant, des choses qui périssent, de la nourriture, rien que pour le corps. Le Seigneur est une nourriture spirituelle. Et combien j'ai besoin de cette nourriture, même en étant chrétien. Quand on connaît le Seigneur, c'est merveilleux parce qu'on vient de découvrir une nourriture qu'on ne connaissait pas avant. Puis on veut tellement en avoir, mais on dirait qu'après un certain temps, on ralentit de se nourrir. Il y a des choses qui peuvent venir prendre place. Mais le Seigneur, il nous rappelle, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous savez que chaque chrétien a besoin de se nourrir. Ça, je ne vous apprends rien de nouveau. Là. Ça, c'est des choses qu'on répète peut-être à toutes les semaines. Mais des fois, on le répète, on le sait, mais c'est de le mettre en pratique qui est plus difficile. Ça m'a frappé cette semaine parce que mon garçon Philippe, mon deuxième, il me disait justement ça. Il dit, papa, il dit, si quelqu'un ne lit pas sa Bible, c'est impossible qu'il persévère dans le Seigneur. Mais moi, c'est quelque chose que je suis aussi, moi, là. Mais de l'entendre d'un jeune homme, là, c'est comme si ça m'a fait, Rol, t'as-tu vu ce que tu crois, là, c'est vrai. Parce que lui ici, il croit. Puis tu sais, il m'a même témoigné que même en étant de son âge, des jeunes de son âge, qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas cette nourriture spirituelle, il a constaté une chose. Ça ne va pas très loin. Et il l'a expérimenté par lui-même. Et il me l'a dit cette semaine. Alors là, ça me dit, Hérole, la nourriture spirituelle. Puis c'est là vraiment qu'on s'aperçoit que c'est vraiment une nourriture. Tu sais, des fois, nous autres, on dit c'est une nourriture, mais dans notre tête, on dit, ben, Oui, ça nourrit, là. Mais c'est vraiment vrai. Et c'est ça qui nous garde proche du Seigneur. La nourriture spirituelle. Le Seigneur Jésus lui-même, en fin de compte. Parce que c'est lui la nourriture. Je suis le pain de vie. Puis on a besoin de se nourrir de qui? Du Seigneur. Si je ne me nourris pas du Seigneur, quand même que j'ai 13, 14, 15 ans, si nos jeunes n'apprennent pas à se nourrir quand ils sont jeunes, ils ne l'apprendront pas plus tard quand ils vont être vieux. Et c'est ça qui les préserve du monde. Parce qu'ils veulent garder cette communion avec le Seigneur. Quand on parle qu'est-ce que le Seigneur veut, c'est que notre communion avec lui soit intacte. Mais si je ne me nourris pas, pas de communion. Le deuxième, je suis la lumière, l'aveugle. Imaginez-vous cet aveugle de naissance. Le Seigneur lui a donné la vue. Mais quand le Seigneur a fait cette déclaration-là, c'est dans le chapitre 8, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, là, j'étais en train de tourner vite, j'étais rendu dans Deutéronome. Tu voyons, je ne trouverais plus mon chapitre, ça ne marchait pas. Dans Jean 8, 12, le Seigneur a fait cette déclaration, ici on se met dans le contexte. Le lendemain que Jésus avait eu, si on peut dire, les gens avaient eu cette crise de l'identité du Seigneur, qu'on a vu dans les chapitres 7, versets 40 à 52, là, on voit que le Seigneur, le lendemain, il s'en va au temple, puis là, les pharisiens lui emmènent cette femme adultère. Et là, le Seigneur leur dit, « Je suis la lumière du monde. » Celui qui me suit ne marchera point des ténèbres, il aura la lumière de la vie. Et vous savez que dans cette discussion de l'identité du Seigneur, il y avait un homme de nuit. Un homme de la nuit. Savez-vous, c'est qui dans l'Évangile de Jean, l'homme de la nuit? Nicodème. Parce que trois fois, Nicodème est mentionné, et il est toujours mentionné, Nicodème, je vais vous le lire, qui était venu de nuit. Puis ça m'a frappé parce que Nicodème était un homme de nuit. Mais lui, il avait vu la lumière. Et il n'avait pas eu peur d'aller au Seigneur. Ben, pas eu peur, il faut s'entendre. Il avait quand même eu des craintes, mais il avait cru que Jésus était venu de Dieu. Il a dit, nous savons que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Il avait reconnu que Jésus était certainement une lumière, ou du moins qui venait du Père. Et ça, c'était convaincu pour lui. Puis on ne sait pas si dans ce groupe de pharisiens qui ont venu apporter la Samaritaine, on ne sait pas si Nicodème était là, parce que ça ne nous a pas dit. Mais ça s'est passé le lendemain, dans le temps, ou au moins à l'entrée du temple. Ils ont emmené la femme adultère, excusez-moi. La lumière ne peut se voir que si on va vers elle. Ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus, ils n'ont rien vu de la lumière. Les pharisiens qui étaient à la croix du Seigneur Jésus ont dit, « Descends de la croix afin que nous voyons et que nous croyons. » Ils n'ont jamais rien vu. Même le roi Hérode, il était anxieux de voir Jésus-Christ parce qu'il voulait voir enfin celui qui avait entendu des choses. Il voulait voir des miracles. Et peut-être qu'après, il dit, « Ben là, je vais croire quand tu vas me montrer des choses. » Qu'est-ce qu'il a vu du Seigneur Jésus? Il n'a rien vu. Et dans Jean, oui, dans les Évangiles, on voit que ceux qui voulaient voir avant de croire, ils n'ont jamais vu de la lumière. Parce que le Seigneur demande une chose. Il demande de croire et ensuite tu verras. Puis le Seigneur, c'est pas ça qu'il a dit à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu vois, tu croiras la gloire de Dieu? Ah, c'est pas ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Puis c'est ça que le Seigneur Jésus avait mentionné à Marthe. Si tu crois, tu vas voir la gloire. Et dans notre vie, c'est comme ça, hein. Quand on croit au Seigneur, il nous révèle des choses. Du jour au lendemain, si on commence à croire Dieu, puis on a la révélation de Dieu, on dit, hey, c'est merveilleux. On découvre des choses constamment, tous les jours. Dans la parole, le Seigneur nous révèle. Parce qu'on a fait le premier pas, et le Seigneur nous donne la lumière dans notre cœur. La lumière. Et cette lumière-là, ça nous garde en contact avec Dieu. Je suis la lumière. Et dans notre vie chrétienne, on a besoin de cette lumière-là pour nous garder toujours en contact avec le Seigneur. Puis on ne peut pas s'approcher du Seigneur. Des fois, vous faites cette expérience-là, j'espère. Vous êtes comme moi. Des fois, on veut s'approcher du Seigneur dans notre culte personnel ou même on veut prier. Puis si on a quelque chose qu'on a eu avec notre femme ou même on était sec avec notre jeune, notre enfant ou avec un frère, quand on arrive pour prier, qu'est-ce qui se passe? La lumière se fait. Hein? On voit comme une coquerelle qui essaie de se sauver. Parce que Marcel, il a déjà été exterminateur, saviez-vous ça? Puis il m'a dit, il y a des places là, qui étaient épouvantables. Mais tu rentrais là dans un restaurant, là, puis tu ne voyais rien. C'était la noirceur. Mais aussitôt que tu touchais à l'interrupteur, la lumière, là, il dit, c'était bourré de coquerelles. Partout, c'est meurt. Puis il dit, là, ça sauvait. Il fuyait la lumière. Moi, quand tu m'as conté ça, ça m'a... Je vais pas être exterminateur. Mais tout ça pour dire que la lumière... Elle manifeste les choses qui sont là. Puis dans notre vie avec le Seigneur, dans notre communion intime, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Puis quand on vient dans la communion avec le Seigneur, on ne peut pas marcher dans les ténèbres. On ne peut pas t'associer avec les ténèbres, tu es en communion avec lui. Et on doit régler les choses. Et si je viens pour prier, le Seigneur me rappelle, oui, qu'est-ce que tu veux? Ça va bien ton épouse? Oh. C'est dur de prier, de savoir que ta femme, ben là, tu l'as offensée. Ben, puis on prie peut-être, mais on sent que ça n'a pas monté très haut. Mais la lumière est vraiment importante. On va parler aussi de le troisième, je suis la porte, le paralytique. Luc, avais-tu quelque chose à mentionner, oui? OK, ouais. Non, c'est bon. On y fait? Ouais. Le Seigneur Jésus, on sait que c'est la parole vivante. C'est vrai. Là, il est 8h20. Moi, je vous avoue que... Hein? Non, je n'ai pas de finir. Mais je ne veux pas vous incommoder non plus. Parce que je me rappelle, quand j'étais à DITP, Jim McCartney, ça m'avait frappé. Il nous parlait pour l'enseignement, puis il dit, quand vous voyez que les gens commencent à dormir, il dit, même si ça fait 10 minutes que tu parles, il dit, ça veut dire que c'est sur le point de finir. Non, mais je trouvais ça intéressant. Et même à des jeunes, des petits-enfants, ils n'ont pas la même capacité d'écoute, il faut que tu sois sensible à ça. Puis là, je sais pas, mais il n'y en a pas personne qui dort, là, mais il y a même tombé. On peut continuer encore jusqu'à 1h30, vous êtes d'accord? Jusqu'à 1h30, on arrêtera. La porte avec le paralytique. Comme je mentionnais, il y avait 5 portiques à cette place-là, la porte des brebis. Et même, j'ai trouvé intéressant, il y en a qui ont dit que certains pensent qu'elle représentait la loi de Moïse et son incapacité de délivrer l'homme de ses problèmes. C'est intéressant, hein? Ça, j'ai lu ça dans le commentaire à M. McDonald. Et c'est vrai parce que lui, ce paralytique-là, combien de fois il a entré par cette porte des brebis-là, ça faisait 38 ans qu'il était malade, toujours malade, pas capable d'aller dans l'eau. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'était une fausse idée que l'ange allait brosser l'eau, en tout cas, ça me ressemble plus à une superstition d'autre chose, mais en tout cas. Que ce soit vrai ou pas, pour lui, ça n'avait pas marché, parce qu'il était encore paralysé, puis il ne pouvait pas marcher. Mais le Seigneur veut dire, je suis la porte des brebis. Oui, il y a quelque chose. Je suis la porte des brebis. Quand le Seigneur Jésus a parlé de la porte des brebis, dans Jean chapitre 10, il a parlé dans le contexte de bergerie, de contexte de brebis, de moutons. Et dans ce contexte-là, ça parlait aussi des brebis d'Israël, la bergerie. Et le Seigneur parlait même aux pharisiens, dans chapitre 9, qui ne voulaient pas croire que Jésus était la lumière. Ces gens qui étaient supposément ceux qui amenaient les brebis, les conduire dans la bergerie, c'était des faux bergers, des faux conducteurs. Et même, vous savez que dans l'histoire d'Israël, il y en a eu des faux messies. Il y en a beaucoup qui se sont dit, le messie, c'était des faux. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de rentrer par une autre porte. Mais le Seigneur Jésus, lui, a rentré par la porte, la bergerie. Il a entré comment? En accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament. Tout exactement. Il est rentré vraiment par la porte. Et même, il déclare, « Je suis maintenant à la porte des brebis. » Puis on sait que ce n'est pas seulement Israël maintenant qui peut entrer. Mais même, il y avait un autre troupeau. Les gentils maintenant pouvaient entrer par la porte. Et quand on parle d'entrée, c'est un privilège que nous avons d'entrer maintenant dans la communion avec Dieu. Ce qui n'était pas donné au peuple d'Israël même. Hébreux 9:8 dit que le chemin n'était pas encore ouvert. La porte était fermée. Le sacrificateur entrait une fois par année dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu même. Et nous, par Jésus-Christ, nous avons libre accès au Père. Quel juif dans le temps du Seigneur aurait pu se vanter de ça? Et jamais. Même, je crois que ça aurait été vraiment un blasphème. De dire qu'on entre dans la présence de Dieu même. Et pourtant, le Seigneur dit, je suis la porte. Vous pouvez entrer et sortir en tout temps. Peu importe où nous sommes. Entrer dans sa présence. L'autre je suis, c'est le bon berger, l'officier du roi. Le Seigneur, avant de rencontrer l'officier du roi, il était allé aussi à la recherche de d'autres brebis, dans le chapitre 4. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur, dans le chapitre 4, est allé à la recherche de la Samaritaine. Il a voulu lui présenter l'eau vive. Et non seulement elle, mais il a passé 2 jours dans la ville de Samarie. Et un grand nombre de Samaritains sont venus au Seigneur Jésus. Aucun Juif n'aurait osé faire une telle chose, d'aller dans ce bourg de Samaritains. C'était comme le Samaritain dit, il n'y avait pas de communion avec eux autres. C'était des impurs. Nous, on les a rappelés les bâtards, peut-être. Ils étaient mixés Juifs et païens. Et le Seigneur, lui, il est allé tendre la main. C'est quelque chose de merveilleux quand on pense à ça. Le bon berger, lui qui était à la recherche des brebis. Il n'était pas comme le mercenaire. Puis vous savez que les bergers qui ont des troupeaux de moutons, ils vivent de leurs produits. Ils vivent des moutons. Ils vivent même la mort des moutons. Je veux dire, s'ils envoient les moutons, ils vendent les moutons pour qu'ils soient égorgés, mais ça lui donne un salaire. Les bergers, en quelque sorte, ils vivent de leur troupeau. Michel, il a essayé de vivre de son troupeau, mais c'est un peu plus compliqué. Mais combien de moutons, Michel? Une quinzaine? 10? Est-ce que tes moutons, ils te font vivre? Non, pas vraiment. Mais vous savez que cet été, peut-être qu'on va faire un michoui. Oui, c'est vrai. Et on va choisir un bon mouton. On va l'égorger, puis ensuite on va le manger. Ça, c'est un peu cruel, ça, pour les moutons. Mais c'est pour montrer que les moutons, habituellement, ils servent aux bergers. Mais lui, le Seigneur Jésus, le bon berger, a donné sa vie pour ses brebis. Il a fait le contraire de ce qu'il était supposé de faire. Et c'est pour ça qu'il peut dire, « Je suis le bon berger. » Et dans la première épître de Pierre, chapitre 5, l'apôtre Paul, quand il parle dans sa première épître, à la fin, il parle de paître le troupeau de Dieu. Et il dit qu'il a été témoin des souffrances du Seigneur Jésus. Il n'a pas été passif, mais il a été passif dans le sens que lui a été un témoin oculaire. Et il a vu le grand berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Et il a vu aussi comment le berger aime les brebis. Et le Seigneur, dans le chapitre 21 de l'Évangile de Jean, il n'attendait pas Pierre avec une brique dans sa nappe. Hein? Le bon berger l'attendait avec un feu, autour d'un feu et un bon repas. Et là, il y a eu un entretien avec sa brebis Pierre. Il l'a rétabli en communion avec lui. Et ça, c'est vraiment un exemple pour moi. Surtout dans la période où je passe avec les adolescents. D'être le bon berger, celui qui communique et qui est prêt à entourer et à donner de la chaleur, et pas toujours être celui-là qui, avec un brique dans sa nalle, ne fait pas ci, ne fait pas ça. Le bon berger. Ouf! Priez pour moi que le bon berger m'aide, même avec ma famille, que je sois vraiment un bon berger. Pas une brique dans sa nalle, mais un bon petit café au restaurant. En discussion tranquille. Ça m'a vraiment frappé de voir ça, que l'apôtre Pierre a été vraiment touché par le bon berger. Et il appelle le Seigneur Jésus comme le souverain berger. Il n'y en avait pas de plus grand. Je suis le numéro 5, la résurrection et la vie, Lazare. Lazare. Je vous pose la question, pourquoi ce miracle? Vous posez la question, pourquoi ce miracle de Lazare? La résurrection et la vie? Oui? Oui. C'est dans quel verset? Hein? T'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est ça? Verset 40. Oh oui, comment tu dis ça, Léonard? Oui. Oui, verset 40 aussi. J'avais pensé aussi au verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. C'est quelque chose, hein? Le Seigneur était content de ne pas être là. Mais le Seigneur, c'est autre chose. Mais le Seigneur, afin que vous croyiez. Et vous savez que Lazare, dans le chapitre 11, c'est un des derniers miracles du Seigneur Jésus. En tout cas, je ne peux pas vous dire si c'est le dernier. Mais si on lit un peu chronologiquement, la Pâque des Juifs était sur le point d'arriver. Et même dans le chapitre 13, on voit que maintenant, on est dans la chambre haute. Alors, c'est un des derniers miracles que le Seigneur Jésus a fait, et du moins, c'est un des plus grands miracles. De la grandeur, parce que quelqu'un qui est en train de décomposer, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, puis qu'il renaît, c'est quelque chose de grand. Et les disciples n'ont jamais oublié ce miracle-là, c'est sûr. Et ça a été toujours dans leur mémoire. Et peut-être que même dans les moments de difficulté, les moments de doute, il y en a eu, c'est sûr. Et Lazare, ce qui est curieux, c'est qu'on ne sait pas où ce qui est Lazare. On sait que les Juifs ont voulu le tuer. Et j'ai lu un commentaire, il y en a qui disent, qui croient que Lazare n'a pas été tué, mais c'est parce que probablement qu'on l'aurait vu, sûrement le Seigneur l'a préservé, mais qu'il serait mort de mort naturelle. En tout cas, on ne sait pas. Mais ça, c'est des commentateurs. Mais du moins, si ça, c'est vrai, il y avait toujours Lazare avec eux autres. Mais eux autres, même si Lazare n'était pas là, il y avait dans leur mémoire que Jésus est la résurrection et la vie. Et qu'un jour, quand que je vais être 6 pieds sous terre, peut-être, que la mort s'en vient, Jésus ressuscite les morts. Voici la résurrection et la vie. Il n'y a personne qui peut nous garder dans la terre. Je trouve assez encourageant de voir ça. Le sixième, je suis chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et on a pensé que quand Jésus a marché sur l'eau, lui qui a... Vous avez entendu l'explication de certains professeurs à l'école qui disaient aux jeunes, et quelqu'un qui m'avait dit ça, que Jésus, pour expliquer le miracle sur l'eau, il marchait sur des roches. L'eau était assez basse, il y avait des petites roches. Il a marché sur des roches, mais... C'est brillant. En tout cas, je ne sais pas comment c'était l'air, ce lac-là, mais apparemment qu'il a marché longtemps. Il s'est frayé un chemin sur la mer. Mais si le Seigneur a marché sur l'eau, pensez-vous qu'il est capable de nous conduire, d'être notre chemin? Lui qui a été élevé au ciel, il n'a pas seulement marché sur l'eau, le Seigneur. Et on peut dire qu'il a marché dans le ciel, je ne sais pas. Puis même qu'à Nathanaël, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Tu vas voir désormais les anges en ciel et terre. Oui, une chef. Oui. Oui, c'est vrai aussi. Pierre a suivi le Seigneur. Ah, ouais. Il y en a plus de nous. Ben, le Seigneur a dit à Nathanaël, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Le Seigneur était le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour la communion avec Dieu. Le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul chemin. Aucune communion possible. Le chemin pour aller à Dieu est rester en communion avec lui. Il y a aussi le sept qui nous parle du vin, la vigne. Puis ce matin, on a vu avec M. Anderson qui nous a parlé que c'était qui le sept avant que Jésus vienne? C'était le peuple d'Israël. C'était lui, Israël. C'était le sept pour Dieu. Et cette vigne a été infidèle et stérile. C'est vrai? Israël n'a pas fait ce que Dieu avait demandé. Et même était supposément être le témoignage des nations alentour. Il était supposé d'amener même les autres nations, Seigneur, de porter du fruit dans ce sens-là. Mais ils n'ont porté aucun fruit. La seule chose qu'ils ont pu amener, c'était l'opprobre du nom de Dieu. Parce qu'ils ont amené les autres nations à blasphémer le nom de Dieu à cause de leur conduite pécheresse. Mais lui, Seigneur Jésus, il a été fidèle jusqu'à la mort. C'est lui le vrai cep maintenant. C'est par lui qu'on peut aller à Dieu. Le monde, ils peuvent bien se moquer, hein? Ils font des farces pour le Seigneur Jésus, mais ils ne peuvent pas nier l'histoire. Et l'histoire est là pour le dire, que Jésus était le Fils de Dieu. Et j'ai même, vous savez, Joseph Flavius, le grand historien qui n'est pas chrétien, j'ai vu un passage, il ne parle pas beaucoup de Jésus-Christ, mais j'ai vu un passage où il parlait de Jésus-Christ, puis il mentionne qu'il y avait un homme se nommait Jésus de Nazareth et qui faisait des choses merveilleuses, qui était même surhumaine. Puis il dit qu'on peut pas même des choses qu'il faisait, que c'était même dur de penser qu'il était vraiment un homme. Il dit ça lui-même. Ouais. Hein? Ouais. Il dit que Jésus n'était pas un homme, d'après lui. Mais pour lui, pour un autre chrétien. Oui, moi, c'est ça. J'ai lu 2-3 fois, puis voyez-vous, une mémoire de chat. Oui, c'est vraiment, je trouvais ça intéressant aussi. Mais, le Seigneur nous a sauvés pour qu'on puisse porter du fruit. C'est sûr que je m'aperçois que quand on a beaucoup de choses, c'est pas un avantage. Quand il y a des avantages, on va aller plus vite et on voudrait dire des choses qu'on peut pas dire. Mais il y a un verset peut-être qu'on va seulement toucher dans Jean 15, le verset 6, peut-être terminé. C'est un verset qui est peut-être un peu difficile. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. » Ça veut-tu dire que le chrétien qui ne demeure pas dans le Seigneur Jésus va être jeté au feu, il va brûler dans l'enfer éternel? Ça ne veut pas dire ça, hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'après vous? Il ne servira pas à grand-chose, oui. C'est bon. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que aussi, même, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, il sèche. Et ensuite, on le ramasse. Ça veut dire, on ne ramasse pas le chrétien. Là, il parle du serment. On ramasse le serment, on le jette, on le brûle. C'est ça qu'on fait avec le serment. Mais celui qui ne s'attache pas au Seigneur, il sèche. Mais ça, c'est frappant, hein? Parce que quand on coupe une branche de la vigne, qu'est-ce qui arrive avec la branche si vous l'achetez, elle sèche? Elle ne sert plus à rien, elle n'a pas de fruit, elle ne fait rien. Puis peut-être qu'on pense que c'est impossible de sécher, mais c'est possible. Hein? Si on pense à des chrétiens qui ont connu le Seigneur, puis qui n'ont pas entretenu la communion intime avec lui, ils peuvent sécher. Si le Seigneur n'est pas notre pain de vie, si on n'a pas la lumière pour régler nos choses dans notre vie, si on n'entre pas par la porte dans la présence de Dieu à tous les jours, si on n'a pas la direction du berger dans nos vies, et si on n'a pas la puissance de la résurrection pour vivre la vie chrétienne, puis marcher dans la vérité, on va s'éloigner de Dieu, c'est sûr. Le témoignage va être brisé, puis on va sécher. Puis la seule manière de persévérer est de demeurer dans avec « Je suis ». Je suis le Seigneur. Et celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Parce que une des raisons aussi que le Seigneur nous a sauvés, c'est pour porter du fruit. Si Israël n'est plus le témoignage de Dieu aujourd'hui, le témoignage de Dieu sur la terre, c'est l'Église, c'est-à-dire chacun de ses enfants, pour porter du fruit pour lui. Porter du fruit pour le « Je suis », le Seigneur Jésus. On a dépassé le temps un petit peu. Je pense qu'on a été long. Le Seigneur puisse parler à nos cœurs et qu'on puisse s'attacher à lui encore plus intimement. On va terminer par un mot de prière.